Eh bien, revenons à notre apôtre Pierre. Et je vous assure moi-même en premier que Dieu m'accorde la grâce de bien comprendre dans quel temps nous sommes. Je ne pourrai peut-être pas vous dire ça dans 2 ans ou dans 3 ans. Je pense que des choses peuvent changer rapidement. On va continuer à méditer sur l'avènement de Jésus tel que Pierre l'avait enseigné aux premières églises, à toutes les églises. Pierre est l'apôtre de toutes les églises. Pierre est notre apôtre. Il nous enseigne à Rennes, il enseigne partout. Et je lis dans 2 Pierre, au chapitre 3, De Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent : où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, c'est-à-dire qui vivent sans Dieu, contre Dieu. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, et que nos cœurs soient silencieux à l'écoute, parce que c'est une chose grave que la rencontre avec le Seigneur. Merci parce que tu habites dans nos cœurs, puisque nous sommes gravés sur tes mains. Bénis la méditation de ce jour, au nom de Jésus. Amen. Être chrétien, c'est vivre avec Jésus. Pas seulement le dimanche matin jusqu'à 11h30, 35 à peu près. c'est vivre avec Jésus chaque jour. On pense à lui, on le prie, on l'aime, on écoute sa parole. Mais l'apôtre Paul dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Nous sommes encore loin et il n'est pas tout prêt. Mais nous l'attendons. Nous attendons son retour. C'est l'espérance de l'Église, c'est attendre le retour de Jésus. Espérance, ce n'est pas attendre que le printemps revienne, que les choses aillent mieux à la maison. Certes, on espère. Espérance chrétienne, c'est d'abord attendre Jésus qui revient du ciel. Amen. Il revient pour qu'on soit avec lui, pour qu'on soit chez lui, pour qu'on soit comme lui. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Et nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous par ses paroles. » Pierre, il a vu ce retour de Jésus quand il était sur la montagne de la Transfiguration et qu'il a vu Jésus changer, plein de lumière, son vêtement lumineux. Il disait, c'est comme le retour de Jésus. Mais la seule chose que Pierre a retenue, ce n'est pas ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu. Nous sommes des gens du spectacle, des gens de l'image, des gens du voir. Mais Pierre, ce qu'il a retenu le plus, ce n'est pas ce qu'il a vu, cette beauté, cette grandeur de Jésus, c'est ce qu'il a entendu. « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. » Comme si Dieu nous disait, « Si vous ne l'écoutez pas, vous ne verrez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, vous serez confus et éloignés de lui pour toujours. Écoutez-le. » Et par la voix des prophètes de l'Ancien Testament, et par la voix des apôtres, nous écoutons la voix de Dieu. Pierre, il compare cette voix à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La lampe ne pourra jamais être éteinte par l'obscurité, elle brillera toujours. Cette lampe, c'est l'Évangile. Elle n'éclaire pas forcément tout l'univers, tout le monde aujourd'hui. C'est notre lampe à nos pieds. Ne l'éteignez pas, ne l'étouffez pas. Prêtez attention, lisez calmement, lisez sérieusement les Écritures, parce qu'il vient très bientôt. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je pense que s'il y a un dernier réveil, comme il y a eu dans l'histoire de l'Église, surtout depuis 2 siècles, des réveils qui ont conduit des chrétiens par millions à revenir à une vie d'église, à une vie fraternelle, à une vie d'écriture sainte, à une vie de prière, s'il y a un dernier réveil, ce sera le réveil de chrétiens qui se mettront à l'écoute de la parole de Dieu. Pour retenir cette parole à l'heure de la tentation qui va nous dérégler dans notre vie. Il faudra retenir une parole de Dieu fermement dans notre cœur. Rien d'autre comptera. Avec les enfants, les adultes, on sera silencieux devant Dieu et on relira les paroles et on les mémorisera. Parce que le juste se sauvera avec peine, dit l'apôtre Pierre. Alors, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie qui ne croit pas? Que deviendra aussi le pécheur qui fait le mal? Mais l'étoile du matin se lève dans nos cœurs aujourd'hui. L'étoile du matin, c'est une présence, nous l'avons dit la semaine dernière, c'est une présence de Jésus qui va nous donner une joie, des certitudes, une assurance. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je crois vraiment qu'il revient bientôt, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Et je crois que l'étoile du matin, elle s'est déjà levée dans beaucoup de cœurs sur la terre aujourd'hui. Et dans beaucoup d'églises chrétiennes, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui disent « Nous croyons vraiment que les temps sont arrivés où Jésus va revenir nous chercher. Amen !» Ça, c'est l'étoile du matin qui brille dans notre cœur. Comme le soleil qui nous éclaire un peu ce matin. Amen. Alors l'apôtre Pierre réveille les chrétiens. Il leur rappelle les paroles de Dieu du passé, le tabernacle, Moïse, le désert, mais les paroles de Dieu aussi pour l'avenir. Parce que nous allons vivre de grandes heures. Je crois qu'il n'y a pas de plus grandes heures que les heures qui seront juste avant la venue de Jésus. Et vous savez que dans toutes les grandes heures de l'histoire du peuple de Dieu, les disciples ont dormi. Mes frères, mes sœurs, dormirons-nous comme les apôtres à Gethsémané, alors que Jésus est sur le point de venir et que pendant ce temps-là, l'ennemi sème de l'ivraie partout pour troubler l'Église, dérégler l'Église, abandonner l'Église. Je pense que la dernière œuvre que nous ferons ensemble, que l'Église fera, peut-être après nous, bien sûr, que l'Église fera, ce sera de nous stimuler notre intelligence, nous préparer avec l'Écriture, nous éveiller pour qu'on puisse attendre le retour de Jésus. Parce qu'il y aura à la fin des temps un sommeil, une pesanteur. On n'aura plus la force. Ça ne tournera pas rond dans notre tête. On sera plaqué dans nos affaires, plaqué dans nos occupations. On ne s'occupera plus de la maison du Seigneur. Nous serons endormis comme les vierges sages, comme les vierges sages, comme les vierges folles. Mais nous savons que Jésus vient. Il nous a donné l'évangile que l'apôtre Pierre appelle un commandement. L'évangile, pour moi, c'est une puissance de salut, mais c'est aussi un commandement, c'est une exigence. Il faut écouter l'évangile. Il faut lire, apprendre, chanter, répéter l'évangile. Si nous ne connaissons pas l'évangile, nous allons nous égarer, nous ne serons pas... Pierre, il dit, nous allons perdre notre fermeté. On ne sera plus sûr. Il est le Fils de Dieu, mais enfin, on ne sera pas sûr. On aura un manque de certitude, un manque d'assurance devant les vérités de la Bible. Alors, il faut bien, je vous encourage, je vous conseille, je vous ordonne. L'Église ne donne pas d'ordre, mais de conseil. Je vous conseille de lire l'Écriture sainte. Parce que c'est nécessaire, parce que justement, il y a une nouveauté qui va arriver. Ce sont les moqueurs. Oh, les moqueurs, on les laisse tomber. Bon. Qui racontent ce qu'ils veulent. Moi, je sais en qui je crois, alléluia. L'apôtre Pierre, il dit, les moqueurs avec leur raillerie. Les moqueurs, vous les oublierez. Leur raillerie, c'est une semence qui va entrer dans votre cœur et qui va pourrir votre foi. Les railleries des moqueurs. C'est un des signes de la fin du monde. Quand je vois des moqueurs qui disent « Oh Dieu, on n'a rien à faire, Dieu n'existe pas », on a envie de leur dire « Vous êtes un signe de Dieu, mon ami. Vous êtes prophétisé par la Bible. Depuis des millénaires, la Bible parle de vous. Parce que la Bible le dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. » Enfin, je ne dirai pas ça. Amen. La Bible nous a donné des signes sur le retour de Jésus, mais ces signes se sont accomplis toujours au cours des temps. Et il nous demande d'intensifier notre attente, parce qu'il y a eu toujours des guerres, des faux crises, des faux prophètes, des tremblements de terre, il y a toujours eu ça. Mais il y a quand même des signes qu'on n'a jamais vus, c'est la lune transformée en sang. Et le soleil qui devient noir comme du crin, on n'a jamais vu ça. Quand ça arrivera, ça pourra prendre une heure. Oh, la lune est toute rouge, le ciel est tout noir. Ce sera l'heure de partir. Ça, c'est pour tout à fait la fin. Et un autre signe de la fin, ce sont les moqueurs. Je pense que les moqueries seront les douleurs de l'enfantement de la dernière Église. Parce que leurs moqueries vont ébranler les chrétiens, vont les déboussoler, vont les endormir, vont les plaquer au sol. Jésus, on lui a dit parfois, « Quel sera le signe de ton avènement ?» Et Jésus répond toujours, « Prenez garde d'être troublé. » Pourquoi ? Il y aura des moqueurs. Il y aura des gens qui vont semer dans votre vie des questions. Mais où est la promesse de son avènement ? Ça devait tout bouleverser, puis il n'y a rien de bouleversé. Il y a toujours des gens qui meurent, la première église, elle est morte et enterrée, et puis rien ne change. Le monde continue de tourner, il y a des saisons, le métro qui tourne, le bus qui tourne, les avions, les métros, etc. Bon, ça continue. Alors, où est la promesse de son avènement ? Rien ne change. Écoutez bien, ces moqueurs veulent nous dire, ne vous attendez pas à du changement. Ne vous attendez pas à une intervention de Dieu dans le monde. Pas possible. Ne vous attendez pas à une intervention dans votre vie. Écoutez bien. Ne vous attendez pas que Dieu fasse quelque chose pour vous. Il a autre chose à faire. Il s'occupe des oiseaux et des planètes. Ne vous attendez pas à un jugement final, quand même. On est moderne aujourd'hui. Et ça va être un sommeil, un trouble qui va appesantir l'Église. Vous savez, je le disais à l'étude biblique, quand on regarde l'évangile de Marc, tous les évangiles, on voit qu'il y a sur le chemin de Jésus des démons. Des versions traduisent des sales esprits, des esprits sales. Il y en a plein sur le chemin de Jésus en Israël de l'époque. Comme si le diable avait mis des légions de démons, des milliers de démons, pour arrêter le passage de Jésus sur la terre. Eh bien, moi, je crois. Avant que le Christ revienne, il y aura des assauts du mal contre l'Église, avec les faux prophètes, avec les faux Christ, avec des loups ravisseurs pour ravir les églises. Je crois qu'il y aura une recrudescence de toutes sortes d'idées nouvelles qui seront sensationnelles, mais qui blesseront l'Église. Les moqueurs. Où est la promesse ? Quand ils disent ça, il vise la plus grande certitude, le plus grand credo de l'Église. Je crois que Jésus vient bientôt. Voilà le credo, voilà la certitude. Je crois qu'il vient bientôt. Je viens bientôt, dit Jésus. Et les ennemis, ils visent cette certitude qui remplit nos cœurs et qui nous pousse à évangéliser, tenir l'Église, donner, travailler. Ils disent en fait, l'avènement du Christ est une invention. La terre est solide. Elle ne bougera pas comme ça. Les apôtres se sont trompés. C'était dans leur temps, ils n'étaient pas cultivés. Et ça va provoquer dans l'esprit des chrétiens une démobilisation. On n'attendra plus. On ne sera plus à dire, Seigneur, purifie-moi ce soir. Purifie-moi dans toute ma journée, parce que si tu reviens, je veux être prêt à partir. On ne dira plus ça, ce sera, on verra bien, la vie passera et nos enfants, et ça continuera toujours, et on mangera, comme au temps de Noé, on mangera, on se mariera, on mariera nos enfants, et ça continuera, et le retour de Jésus, on n'y pensera plus. Séduction de l'adversaire contre ce retour. C'est vrai que parfois, quand on lit la Bible, on se dit, mais tout ça, c'est loin. Est-ce qu'il y aura un bouleversement de la planète? Est-ce qu'il y aura un bouleversement des étoiles, un bouleversement du cosmos? Ça paraît tellement loin. Mais Dieu a dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Mais Dieu ajoute, Dieu s'est délivré de l'épreuve, les hommes qui lui appartiennent et réservé pour le jugement ceux qui sont dans le mal. C'est écrit dans l'épître de Pierre. Dieu s'est protégé. La terre est réservée pour le feu. Si on ne veut pas y croire, on peut ne pas y croire. Si on veut y croire, on peut y croire. Je pense que les doutes et la foi dépendent beaucoup de notre volonté. Si je veux y croire, j'y crois. Si je ne veux pas y croire, j'y crois pas. Mais c'est ainsi que les choses vont finir. Il y a encore du temps, bien sûr. La deuxième chose qui est un problème avant le retour de Jésus qui approche, non seulement les moqueurs qui sèment leurs petits grains, qui déstabilisent, démobilisent, endorment, hop, j'ai assez fait, on verra bien, des petits grains qui tombent. La deuxième chose, et je termine là, le retard. Sujet de moquerie. Oh, ça fait... En parlons de moi. Ça fait 40 ans que vous prêchez ça, monsieur le pasteur. Regardez, ça tourne toujours. Vous avez du retard. Dieu ne compte pas le temps comme nous le comptons. Un jour pour lui, ben c'est 1000 ans pour nous. Et 1000 ans de nous, c'est un jour pour lui. On est perdu. Mais ce qu'il veut nous dire, le Seigneur, c'est que le temps avant son retour sera très court. Très court. Habacuc. J'aime bien Habacuc, prophète. La prophétie ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2. Je vous rappelle, frères et sœurs, que le retard, c'est vrai, je regarde ma montre, il a pris du retard, le Seigneur, hein, mais il n'oublie pas. Le retard n'est pas un oubli. Je vais vous dire ce que c'est que le retard, parce que la première Église l'attendait. Le retard, c'est la patience de Dieu qui attend que son peuple change de vie, arrête ses impuretés, arrête son chacun pour soi, que son peuple retrouve le chemin de la charité, chemin de la sainteté, que son peuple se repente. Le retard, c'est de la patience. Nous, on dit, qu'est-ce qu'il fait? Comme au temps du prophète Élie, il est parti en voyage, il dort. Dieu nous dit, je suis patient à votre égard. Vous avez vu la patience de Dieu au temps de Noé? 120 ans. Noé leur a dit, dépêchez-vous, il va y avoir un déluge. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 120 ans. Au bout d'un moment, on disait, c'est pas possible. C'était la patience pour que le temps de Noé revienne dans la bonne voie. C'est du temps qu'il nous laisse pour changer nos vies. C'est une patience et Pierre nous dit envers vous, c'est-à-dire envers vous, l'Église, patience envers les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas prêts. Si le Seigneur revenait ce matin, nous ne partirions pas certainement tous auprès de lui. Les chrétiens ne sont pas prêts. Et le Seigneur, il est patient, mais aussi, il dit, il ne veut pas qu'aucun périsse sur la terre. Le retard, c'est l'élargissement du salut. Le retard, c'est comme si Dieu disait, eh bien, je vous ouvre les portes, dépêchez-vous, l'arche est ouverte, venez. Il ouvre les portes aux nations. Donc la fin des temps, le retour de Jésus précisément, le retour, il est retardé pour qu'on achève notre repentance et que personne ne périsse de notre famille, de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est que la date du retour de Jésus dépend de notre décision. Si l'Église demain sur la terre se disait « Allez, mes frères, mes sœurs, de Chine, des États-Unis, d'Argentine, allez, on se donne la main. Seigneur, nous voici, pardonne nos péchés. » Ouh là là ! Ouh là là ! Il y aurait des conversions par millions. Et le Seigneur serait prêt de revenir. La fin est retardée et elle dépend de notre décision. Elle dépend de nous. Dieu prend au sérieux la réponse de l'Église. Dieu prend au sérieux ce que l'Église de Rennes fait ou ne fait pas ou ne fait plus. Remarquez bien, mes frères et sœurs, remarquez combien la patience de Dieu ne se laisse pas ébranler par les moqueurs. Quand on se moque de nous, parfois on perd patience. La patience de Dieu n'est pas ébranlée par les moqueurs qui continuent de semer, de ricaner, de mettre des flèches dans l'œuvre de Dieu. La patience de Dieu n'est pas ébranlée non plus par nos relâchements. On fait, on ne fait plus, on a fait, on ne fera plus jamais. Dieu n'est pas ébranlé, il continue d'avoir patience, il nous attend. Mais enfin, je vais vous dire un secret. En définitive, ce n'est pas nous qui décidons du retour de Jésus. C'est la patience de Dieu qui décide. Et un jour, Dieu mettra un terme à sa patience. C'est pourquoi, pendant qu'il en est temps, revenons à lui. Amen. Modifions notre façon de vivre. Vous avez vu l'apôtre Pierre comme il parle du temps du retour de Jésus, avec les moqueurs, avec le retard. Il y a une séduction qui va pousser dans le monde, qui va pousser parce que ce retard, on aura l'impression qu'il est dans plusieurs siècles. Des chrétiens me l'ont dit, il reviendra dans plusieurs siècles. C'est peut-être pas faux, mais c'est faux quand même. Parce que si on dit cela, eh bien, on n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans la persévérance. On n'est plus dans l'espérance. On n'est plus, comme Jésus a dit, attendez. On n'attend pas. On se dit, il y a encore des siècles. Ce sera pour nos petits-enfants. Ils se débrouilleront. On ne sait pas. Je crois que actuellement, avec les prophéties devant moi et la parole de Dieu, Jésus pourrait revenir ce soir, demain, dans un mois, à tout moment. Impossible de fixer une date. Ce jour viendra comme un voleur. Impossible de fixer une date. Et puis pour le bouleversement de la nature, c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Et nos œuvres seront soumises au verdict de Dieu. La terre sera consumée avec ses œuvres. Imprévisible. Mais l'apôtre dit aux Thessaloniciens, ce jour ne doit pas vous surprendre parce que vous êtes de la lumière. Et si nous avons la lumière, l'étoile du matin dans nos cœurs, je pense que si Jésus habite dans nos cœurs, nous ne serons pas surpris. Nous serons toujours prêts. Et quand on est toujours prêt, on n'est jamais surpris. Et je pense que, avant que le Seigneur revienne, je pense qu'il nous donnera des petits avertissements au fond de nos cœurs. Ce jour ne nous surprendra pas. Paul dit aux Romains, vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, pas dans 3 ans, c'est l'heure de vous réveiller des ténèbres. Faites du ménage chez vous, réglez vos affaires avec votre mari, votre femme, vos enfants, réglez votre foyer, votre famille, c'est l'heure de vous réveiller. Éloignez-vous des impuretés, des tricheries. Frères et sœurs, Je ne comprends pas tout sur le retour de Jésus. Mais je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas fait pour tout comprendre. Je ne sais pas comment les cieux passeront avec fracas, comment tout l'univers passera. Je ne sais pas. Ça me paraît mathématiquement étrange. Mais celui qui a dit ça, c'est Dieu. Alors, je me calme. Je ne laisse pas le moqueur me mettre de la semence dans mon esprit. L'apôtre dit pour conclure, ayez une bonne conduite de vie, puisque tout va changer. Vivez avec le Christ sans tache, irrépréhensible. Priez pour tous les hommes, parce qu'il viendra un temps où l'on ne pourra plus travailler, où les cœurs seront endurcis. Priez pour vos épouses inconverties, vos maris inconvertis. Priez pour vos enfants, pour vos parents, priez. Parce que les temps vont devenir très durs. Et aujourd'hui, pendant que nous pouvons, eh bien, mettons-les devant Dieu chaque jour. Soyons sur nos gardes aussi. Ne prêtez pas l'oreille à tout ce qui se raconte sur Internet. Et grandissez dans la lecture des Écritures saintes. Retenez ce que vous avez reçu. Que personne ne prenne votre couronne. Nous sommes dans le temps qu'il reviendra. Amen. C'est un honneur. C'est compliqué. C'est un peu de bazar partout. Mais c'est un honneur. Et je voudrais être debout quand il reviendra avec vous. Amen. Pas sans vous, avec vous. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, tiens-nous debout face à ces belles choses, ces grandes choses, parce que nous sommes appelés à te rencontrer un jour. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'éloignement de Dieu et à mourir sans espérance, sans rien. Nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je te prie pour que l'Église se perfectionne, grandisse en charité, en espérance, en foi, que ton Église soit belle à tes yeux et qu'elle puisse chanter « Maranatha, le Seigneur vient !»« Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus !» et qu'elle puisse participer aussi aux douleurs de ce monde. Parce que si le Seigneur tarde, c'est aussi parce que ce monde est dans un drame. Nous voulons prier pour les famines d'Afrique actuellement, pour les guerres du Proche-Orient, pour la détresse de péché de l'Europe, pour le déclin de l'Europe, le déclin moral et spirituel et social de l'Europe. Nous te prions, Seigneur, que ton Église se tienne debout devant toi, parce que c'est une heure grande et grave. Amen. Amen.